Il est 11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, dans La Méridienne, nous allons parler de l'épilepsie. Saviez-vous que l'épilepsie est la deuxième maladie neurologique chronique la plus fréquente derrière la migraine ? Environ 50 millions de personnes dans le monde sont concernées par l'épilepsie et en France, plus de 700 000 personnes souffrent d'épilepsie, ce qui représente 1% de la population. 50% d'entre elles ont moins de 20 ans. Pour parler de cette maladie, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Magali Villette. Bonjour.
Bonjour.
Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter une chronique de Quentin Rochou.
Bonjour, je suis Quentin Rochou, j'ai 15 ans et je fais partie de l'association Jeunes Reporters à Bourgueil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Dominique Joubert, organiste titulaire à Valence dans la Drôme. Dominique Joubert, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer de l'orgue et depuis combien de temps en faites-vous ?
Alors, il faut rappeler, effectivement, je suis organiste titulaire de la cathédrale de Valence, mais je suis natif de Richelieu, en Indre-et-Loire, et c'est là où tout a commencé pour moi. Donc il y aura 60 ans, j'ai 65 ans maintenant, j'étais enfant de chœur à l'église, et puis, parce que j'avais un an d'avance à l'école, hein. Et puis on m'avait demandé si je voulais être enfant de chœur, donc j'étais enfant de chœur, pour une grande fête, donc je pense que c'était la Toussaint 1960, et donc ça chantait, il y avait toute une célébration très jolie, très belle, et à un moment, l'orgue a joué là-haut, très fort, je me suis retourné, et j'ai vu cet instrument que j'avais jamais vu, en fait, et je pense que quelque part, ça a été comme un aimant qui m'a fait monter comme ça au ciel, et je me suis dit peut-être ce jour-là que je serais organiste.
D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour vous ?
Alors, le plus dur pour un organiste, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est de faire marcher les mains et les pieds, parce que évidemment, on a plusieurs claviers, mais ça, c'est pas un problème. On va se rappeler sur lequel on doit jouer, ça, c'est pas une question. Jouer avec les mains, ça va. Tout le monde peut le faire. Jouer avec les pieds, tout le monde peut aussi, parce qu'en fait, en quelques mois, on apprend rapidement à jouer du pédalier. La difficulté des organistes, notre combat permanent, c'est la coordination entre les mains et les pieds, parce que la main gauche, qui a l'habitude de jouer la basse au piano, eh ben, elle veut toujours jouer la basse. Sauf qu'à l'orgue, ce sont les pieds qui jouent la basse, à quelques exceptions près. Et donc, on est toujours en train de lutter contre cette tendance que la main gauche, elle veut reprendre ses prérogatives. Voilà.
Vous avez joué sur plusieurs orgues. Lequel préférez-vous ?
Alors, comme je dis, le fondateur, c'est Richelieu, puisque c'était mon premier, et il contenait dedans, dans lui, c'est un instrument de 1853, il contient dedans toutes les sonorités qui m'ont attiré. Alors, bien évidemment, j'en ai vu d'autres, j'en ai joué beaucoup d'autres. Alors, aujourd'hui, je peux pas en garder qu'un seul. Mais on va dire Richelieu, parce qu'il est fondateur, c'est sûr. Le deuxième, c'est quand même un des plus beaux du monde, c'est le grand orgue, les grandes orgues de Notre-Dame de Paris, parce que ça, évidemment, c'est un instrument unique au monde, qui est envié par tous les organistes, tout le monde rêve de jouer là. Et puis enfin, le troisième, parce que quand même, je ne vais pas l'oublier, c'est celui que je sers depuis 30 ans bientôt, c'est les grandes orgues de la cathédrale de Valence.
D'accord. De quoi êtes-vous le plus fier depuis que vous avez commencé ?
Alors, le plus fier, je dis sans... Oui, c'est une fierté humble, quand même. Voilà, moi, je suis d'un milieu très modeste. Mon père était plombier à Richelieu, mon grand-père était zingueur, et puis mes autres grands-parents étaient cultivateurs, ici où nous sommes, on fait cette interview, vers la Chapelle-sur-Loire et Bourgueil. Et voilà, donc d'un milieu modeste. Et je suis très très heureux d'avoir été invité, grâce au travail, puis à tous les profs que j'ai pu rencontrer et qui m'ont aidé, de jouer donc à Notre-Dame de Paris. Voilà, j'ai eu la chance et la joie de donner trois fois un concert à Notre-Dame de Paris, et ça reste des émotions inoubliables. Puis peut-être aussi une dernière chose, puisque maintenant que j'ai l'âge que j'ai, sujet, je peux me retourner un peu sur ma carrière et sur ma vie. Et j'ai sorti, il y a quelques années, maintenant 3 ans, un disque d'improvisation, un triple CD d'impro, qui est un art que je pense maîtriser pas mal, parce que j'ai eu aussi de grands maîtres dans ce domaine-là, et qui a été très très bien reçu, voilà, par la critique. Donc je suis très fier de ça, oui, vraiment. C'est un peu comme on va pas dire mon testament, parce que j'ai pas encore l'âge de faire mon testament, mais c'est quand même un peu comme un testament musical. Voilà, c'est tout ce que je sais faire, et là, voilà.
Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps pour cette interview, Dominique Joubert. Cette interview est à retrouver sur le site des jeunes reporters, www.jeunesreporters13ans18ans.fr. Merci et à bientôt.
Merci à Quentin Rochou pour cette chronique. Quentin Rochou, que nous avons accueilli ici en stage l'année dernière et qui est toujours bénévole au sein des jeunes reporters. N'hésitez pas à parcourir son blog L'actualité par Quentin, l'actu-de-quentin.over-blog.com. Et pour les jeunes reporters, rendez-vous sur le www.jeunesreporters13ans18ans.fr. Il est temps de retrouver notre invité. Alors Magali Villette, vous êtes investie dans une association qui fait de la sensibilisation autour de cette maladie qui est l'épilepsie. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors j'ai pris la correspondance du département depuis le mois d'octobre, correspondance qui était un petit peu en perte de vitesse puisqu'il n'y avait plus personne déjà depuis 2 ans. Donc l'association c'est Épilepsie France. Épilepsie France est une association reconnue d'utilité publique et qui a pour vocation d'accompagner les épileptiques et leurs familles dans leur parcours par rapport à la maladie.
Et alors comment on se retrouve investi dans cette association Épilepsie France ?
Alors on se retrouve investi dans cette association parce que moi-même j'ai eu besoin de leur service, de leur accompagnement, de leur soutien, parce que une jeune fille qui s'est retrouvée à déclarer une épilepsie alors qu'elle était en fin de collège, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir dans sa vie d'étudiante et lycéenne, enfin surtout lycéenne. Et lorsque pour elle ça a été un peu plus facile, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cette expérience sans la transcender et en faire quelque chose de positif. Donc je me suis investie auprès d'Épilepsie France qui est venue vers moi pour me poser la question si je pouvais prendre le flambeau. Voilà.
Alors, l'épilepsie, on a dit que c'est une maladie neurologique, chronique. Est-ce que vous aimeriez expliquer plus en détail ce que c'est ?
Alors, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique. C'est-à-dire réellement neurologique, puisqu'elle dépend d'un événement qui va se passer dans le cerveau. Il va y avoir une excitation électrique qui va déclencher une crise. On parle d'épilepsie, mais moi je préfère parler des épilepsies plutôt que de l'épilepsie parce que leur manifestation va dépendre de la zone dans laquelle elle va se déclencher. Et selon la zone déclenchée, les manifestations ne seront pas les mêmes. À savoir que aujourd'hui, vous, enfin tout à chacun, ce qu'on en connaît la crise, si je vous interroge, vous allez me parler d'une crise, d'une personne qui tombe et qui va avoir des secousses, qui ne va pas être bien pendant un certain temps. Au sol. Or, la crise d'épilepsie, c'est pas toujours ça. La crise d'épilepsie va être déterminée par deux choses. On va avoir les crises généralisées d'un côté et les crises partielles de l'autre. Les crises généralisées, donc, on va avoir cette fameuse crise tonico-clonique que je viens de vous décrire, mais on va aussi avoir les absences. C'est une personne qui va vous parler et puis d'un seul coup, stop, on, off, et elle va s'arrêter brusquement. Quand elle va revenir à elle un petit peu plus tard, sans forcément perte physique de conscience, mais elle va avoir une perte de contact, en fait. Et quand elle va revenir à elle, au bout de 2-3 minutes, elle va être un petit peu perdue, désorientée. Elle ne saura pas ce qui s'est passé. Si la conversation s'est continuée ou des événements se sont passés autour d'elle, Elle va pas comprendre pourquoi, par exemple, je sais pas, la voiture bleue qu'elle avait devant elle parce qu'elle est dans la rue et puis là et que c'est un bus qui est devant elle. Ça, voilà, elle aura perdu un espace-temps. Donc ça, c'est la deuxième crise généralisée. Ensuite, on a les crises partielles qui vont se manifester également par des événements du type une difficulté à parler ou un membre qui va se mettre à trembler ou aussi parfois des sensations visuelles, olfactives ou auditives. La personne va avoir l'impression de voir des choses, entendre des choses ou sentir des choses qui n'existent pas. Donc, toute personne à tout âge peut faire une crise. On ne naît pas épileptique et on n'est pas sujet forcément à l'épilepsie. Un accident de la route, un AVC peut déclencher derrière des épilepsies.
Alors, comme vous le dites, ça peut être plusieurs choses, en fait, une crise d'épilepsie. Donc ça peut, s'il y a l'idée de voir des choses, peut-être que ça peut être difficile de poser un diagnostic, parce que peut-être que les personnes ont honte aussi, se disent qu'elles sont folles, qu'elles ont des hallucinations. Si c'est des absences, voilà, c'est pareil. Peut-être que c'est pas simple, déjà, de dire qu'on a ces symptômes, et ensuite que ce soit diagnostiqué par un médecin.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment communiquer et informer la population sur ce qu'est l'épilepsie. Parce qu'il faut désacraliser l'épilepsie. L'épilepsie n'est pas une maladie mentale. L'épilepsie est une maladie neurologique et uniquement neurologique. Parfois, effectivement, difficile parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Et puis, il est aussi difficile de dire « j'ai vu des choses » alors que tout un chacun va lui dire « non, nous, on ne l'a pas vu ». Donc, ça peut être compliqué, effectivement. Et puis, il y a aussi... il faut se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Or, la personne épileptique, lorsqu'elle fait une crise, elle va perdre ce contact, donc elle ne va pas se rendre compte de ce qui se passe. C'est les personnes autour d'elle qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc il faut qu'il y ait une certaine conjonction d'événements et de circonstances qui permettent de définir qu'il y a quelque chose qui est anormalement, qui est anormal et qui est en train de se passer. En général, la crise d'épilepsie seule, alors il faut savoir une chose, c'est que 10% de la population, un jour ou un autre dans sa vie, va faire une crise d'épilepsie. Ce n'est pas parce qu'on a fait une crise d'épilepsie que l'on est épileptique. L'épilepsie se définit par la fréquence d'une crise et le fait qu'on en a eu plusieurs. Un diagnostic ne sera posé qu'à partir du moment où il y aura eu 2, 3 ou 4 crises. D'où un parcours médical qui peut parfois être long parce qu'on va peut-être faire une crise aujourd'hui et puis la prochaine, on la fera peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an. Donc la prise en charge dépend aussi de la fréquence des événements.
Donc là, on voit bien aussi quelle est l'urgence ou l'importance en tout cas de poser ce diagnostic parce que comme vous expliquez qu'il peut y avoir des absences, on voit bien, voilà, on imagine sur la voie publique, ça peut être très dangereux en fait. On peut avoir vraiment plein d'accidents, d'accidents domestiques.
Alors, l'épilepsie, on a l'effet de la maladie, le fait d'être épileptique, de faire des crises, mais souvent, ce dont souffrent le plus les malades, c'est plutôt les conséquences que vous dites. La crainte de faire une crise en faisant par exemple à manger, on fait une crise, on fait cuire, chauffer de l'eau pour faire des pâtes et puis on fait une crise et on s'ébouillante. Il y a des accidents domestiques qui peuvent arriver. Ou également en ville, hein. Enfin, moi je me souviens très bien au départ de la maladie de ma fille, j'avais très très peur qu'elle parte en ville toute seule parce que j'avais peur qu'elle fasse une crise en plein milieu d'un... sur les voies du tram ou autre. Donc, c'est toutes ces dimensions-là qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que la personne épileptique, à partir du moment où elle le sait, elle a son diagnostic, ce qui est quand même souvent soulageant, parce que elle était avant dans un flou, elle se posait la question de ce qui se passait. Donc, souvent, quand le diagnostic est posé, c'est quelque chose qui soulage et qui apaise la personne, mais en même temps qui crée d'autres craintes. Et souvent, les craintes, elles sont reportées sur l'environnement, enfin sur l'entourage, la famille, le conjoint, les parents ou les frères et sœurs. Parce qu'eux, ils savent que si la crise va arriver, la personne peut se mettre en danger. Et souvent, ça crée une tension qui peut pas forcément être évidente à gérer parce que la personne peut considérer qu'elle peut tout faire toute seule, alors que son entourage va dire « Attention, moi, je veux bien que tu ailles... te balader sur le bord de Loire, mais pas toute seule, parce que si t'as eu quelque chose, ça peut devenir dangereux. » Donc il y a des précautions à prendre. Les épileptiques peuvent continuer à vivre normalement dans la majorité des cas. Et par contre, il faut toujours essayer de prendre en considération leur sécurité au quotidien.
Alors oui, là, on imagine que ça peut être difficile pour des adolescents en plus. Donc déjà, d'avoir ce diagnostic, donc on suppose que c'est une maladie qui va vous suivre toute une vie. Et en plus, peut-être à un moment où on a envie de s'émanciper, de faire des choses tout seul, voilà, on a de nouvelles contraintes.
C'est là où l'association peut énormément aider aussi. Lorsqu'on apprend l'épilepsie de son enfant, de son conjoint ou de son parent, parce que ça peut être aussi dans la troisième phase de la vie, et ben ça, c'est aussi des gens qui peuvent être touchés. Ce n'est pas toujours évident de le gérer et de ne pas vouloir infantiliser la personne. Donc ça, c'est très important. Et c'est là que l'association apporte son aide, parce qu'elle a l'expérience, puisqu'elle connaît plein d'épileptiques, elle a plein de cas. Et on peut mettre en relation les gens, on peut accompagner, on peut proposer des choses, et on est surtout beaucoup à l'écoute.
Alors là, en fait, ce que vous mettez en avant, Magali Villette, c'est le rôle d'aidant, en fait, dont peuvent avoir besoin, surtout peut-être au moment du diagnostic, les personnes épileptiques, mais aussi leur famille, en tout cas leurs proches. Et alors, l'idée de l'association, est-ce que ça vous semble juste de dire que ça peut permettre aussi d'avoir de la distance, c'est-à-dire peut-être qu'on écoute plus facilement des conseils de personnes qui connaissent le sujet, mais avec lesquelles on n'a pas de lien affectif.
Tout à fait, on est plus à l'écoute, et puis on avance plus vite, et on avance mieux. Pour faire simple, moi quand j'ai appris l'épilepsie de ma fille, je dis qu'il m'a fallu un an pour passer mon bac d'épilepsie, et qu'aujourd'hui j'ai toujours pas ma maîtrise, parce que c'est trop complexe. Il ne faut pas rester tout seul, il faut vraiment aller vers ceux qui peuvent vous accompagner. Le médecin peut vous accompagner, le neurologue peut vous accompagner, et il est important d'être vu au moins une fois par un neurologue, hein, ça c'est vraiment important, parce que c'est lui qui pourra diagnostiquer l'épilepsie, faire passer les bons examens pour pouvoir poser le diagnostic. Il faut savoir quand même qu'on a 10% de personnes qui sont aujourd'hui mal diagnostiquées, soit diagnostiqué en tant qu'épileptique, soit non diagnostiqué. Donc c'est hyper important qu'il y ait bien le parcours médical. Et ça, ce n'est pas forcément notre domaine chez Epilepsie France, mais on oriente quand même les personnes, quand il y a des doutes, vers les services de neurologie. Ça, c'est une chose. Après, quand vous repartez avec le diagnostic de l'épilepsie, il faut savoir ce que vous en faites, parce que vous repartez souvent avec le diagnostic, avec un traitement, avec des conditionnements, avec des examens à faire, avec un suivi, vous repartez avec un packaging. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Actuellement, dans la société dans laquelle on est, l'épilepsie n'a pas forcément bonne presse, et il est difficile pour les gens de pouvoir en parler de façon ouverte et de façon honnête et clair. Et souvent, la première réaction, c'est le rejet. Donc, il faut pouvoir l'aborder avec suffisamment de distance. Et c'est aussi là que l'association peut aider, parce qu'on a des personnes qui peuvent accompagner sur le milieu professionnel, sur le milieu scolaire. En milieu scolaire, il ne faut pas hésiter à faire appel à Epilepsie France lorsqu'il y a un entretien sur un PAI ou autre, pour mieux expliquer. La tierce personne est souvent mieux entendue qu'une maman, qu'un papa, où on va lui dire « attendez, vous êtes plein l'affectif, c'est votre bébé, etc. » C'est plus compliqué. Donc ça permet de mettre une distance, et ça permet d'avoir un discours posé, su et reconnu.
Alors vous avez parlé de PAI, est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est ?
C'est un plan d'accompagnement individuel pour les enfants qui sont scolarisés. Donc ça permet par exemple de dire que quand un enfant fait une crise, on ne va pas forcément tout de suite appeler les pompiers, parce que toutes les épilepsies ne demandent pas forcément un passage aux urgences à chaque crise. Autrement, les urgences, elles ne feraient que ça aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le dire. Mais les milieux scolaires ne le savent pas forcément, et puis il y a la peur de ne pas bien faire, de ne pas la prendre en charge. Donc un PAI, ça permet de quoi ? de dire, ben voilà, cet enfant, il peut être un peu fatigué, donc il peut être pas bien, il peut être faire une crise. Et quand ça se passe, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'école, au sein de la classe? Donc, ben, il va faire une crise, ok. Alors, est-ce qu'on lui autorise d'aller se reposer? Est-ce qu'il y a un endroit pour qu'il puisse reposer calmement, tranquillement, pas forcément avec une... Enfin, selon le cas, pas forcément avec une surveillance non-stop, parce que c'est pas forcément nécessaire. Juste quelqu'un qui donne un œil, ça peut être suffisant. Je dis bien, c'est selon les cas. Il faut bien voir chaque cas particulier, parce que comme on disait tout à l'heure, chaque épilepsie est particulière. Donc, il faut vraiment le faire de façon particulière et individuelle. Une personne qui a une zone touchée et la même zone touchée chez une autre personne, ça ne se révélera pas forcément exactement de la même façon, parce que les circuits dans le cerveau ne sont pas forcément les mêmes chez les deux personnes. Donc ça, il faut faire vraiment attention. C'est de l'individualiser totalement, et c'est ça qui n'est pas forcément toujours facile. Après, on parlait tout à l'heure... on est dans le cas d'un enfant, mais on peut être aussi dans le cas d'un adulte qui a démarré sa vie d'adulte, qui est, par exemple, moi j'ai un monsieur que je connais qui travaillait dans la restauration, il a fait 3 crises. Pour lui, c'était plus possible de travailler en restauration parce que très fatigué, etc. Donc là, il y a un accompagnement sur la reconversion, sur qu'est-ce qu'il peut faire. Comment il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il peut continuer à avoir le permis? Pas le permis? Quels sont les métiers qui sont ouverts et pas ouverts? Parce que là-dessus, il y a une législation. Il y a une liste de métiers qui sont interdits aux épileptiques. Et à part ces métiers-là, tous les métiers peuvent être accessibles. Donc il faut vraiment faire attention au discours qu'on peut avoir. Donc c'est toute cette pluridisciplinarité qu'il y a autour de cette maladie.
Alors, est-ce que vous voudriez préciser, par exemple, quels sont les métiers qu'on ne peut pas faire quand on est épileptique?
C'est des métiers du style les pompiers. On ne peut pas être pompier. On ne peut pas être ambulancier. On ne peut pas être pilote d'hélicoptère. Voilà. Mais cette liste-là, alors là, j'ai 2-3 métiers comme ça qui reviennent parce que c'est les premiers qui me reviennent à l'esprit. Mais il y en a d'autres aussi qui sont complètement fermés parce que c'est pour la sécurité de la personne et c'est pour la sécurité d'autrui également.
Voilà, donc vous venez d'expliquer hein, qu'il y a aussi des conséquences lourdes, enfin potentiellement lourdes, en tout cas sur la vie quotidienne des personnes épileptiques.
Alors, il y a des conséquences lourdes, mais attention, elles ne sont pas toutes identiques pour tout le monde. Et il y a des personnes qui sont épileptiques et qui vivent très bien avec leur épilepsie, qui ont leur permis, qui ont une vie de famille et qui ont des enfants, qui ont fait des études de façon brillante. Je connais des médecins, des ingénieurs, des professeurs qui sont eux-mêmes épileptiques parce que stabilisés. D'accord ? Ou qui font très peu d'épilepsie et de crise, donc ils peuvent concilier, voilà. Après, l'épilepsie, souvent, alors on a deux types après, c'est un peu complexe, hein. On a deux types d'épilepsie par rapport aux médicaments. On a les épilepsies qui résistent aux médicaments, donc les pharmacorésistants, et les épilepsies qui répondent bien aux médicaments. Donc en général, ces deuxièmes groupes sont stabilisés, ils vont plutôt bien, ils sont plutôt bien intégrés. Ils ont une vie quasiment normale, à part parfois un peu de fatigabilité ou des troubles liés aux effets secondaires des médicaments. Mais les choses se gèrent plutôt bien dans ce groupe-là. Et puis, on a à côté de ça les pharmacorésistants, qui représentent quand même un certain pourcentage des épileptiques, et qui, pour leur part, eux, se retrouvent. Donc, pharmacorésistant, ça veut dire quoi? Il faut peut-être que je précise un petit peu. Pharmacorésistant, ça veut dire qu'on a essayé chez ces personnes-là au moins 3 molécules de façon successive et que à ces molécules-là, ces personnes n'ont pas forcément répondu correctement, c'est-à-dire que on a pu réduire l'intensité parfois des crises ou réduire les fréquences des crises, mais elles sont toujours présentes dans la vie. Donc on n'a pas pu, complètement faire disparaître avec le médicament les crises. Quand je parle de médicaments, on ne guérit pas avec les médicaments, on soigne. Ça veut dire que c'est des médicaments que l'on prendra à vie. Donc ça, c'est important aussi. On ne soigne pas aujourd'hui l'épilepsie par des médicaments, et encore moins... part de l'homéopathie ou de l'acupuncture, voilà, parce que c'est des choses que l'on entend aussi, mais non, ça, vous ne pourrez pas soigner votre épilepsie avec de l'homéopathie ou de l'acupuncture, ou d'autres médecines ou, comment dire, alternative qui se dit médicale. Quoi. Ce n'est pas possible. Il faut bien l'entendre. Voilà. Donc, ces personnes qui sont pharmacorésistantes, elles se retrouvent donc avec leur traitement, parfois avec un multitraitement, donc avec plusieurs médicaments pour pouvoir essayer de contenir au mieux ces crises, et avec de la fatigabilité rajoutée au fait qu'il y a ces crises qui continuent à être là. Pour vous donner un exemple, pour illustrer, une crise, c'est quoi ? Au niveau intensité, c'est comme si vous couriez un marathon en 10 minutes. Donc le corps derrière est vraiment vidé de toute énergie. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir l'illustrer, parce que ça permet de comprendre mieux pourquoi derrière les personnes peuvent être en état de fatigabilité extrême. Et que le retour à la condition normale peut prendre entre, on va dire, une heure à 24 ou 48 heures, selon. Donc, c'est des éléments qui font que la vie au quotidien n'est pas forcément une vie où on va pouvoir vivre sans se poser la question. Voilà. En général, il faut quand même programmer tout ce qu'on va faire, réfléchir. Voilà. Dans la vie d'un étudiant, puisque ici on est quand même face aux étudiants, un épileptique va se poser la question des sorties. S'il sort, il va programmer sa sortie, mais avant il aura programmé sa sieste, et puis avant il aura programmé ses études. Et voilà, il aura tout en général est planifié. Il y a peu de place pour l'imprévu. Ou s'il y a l'imprévu, ça veut dire qu'on va revoir toute la planification de ce qu'on avait prévu initialement. Donc c'est des incidences de ce type-là quand même. Voilà, donc on a les traitements pour les épileptiques, et puis on a aussi certains épileptiques, et je dis vraiment certains, parce qu'il ne faut pas penser que tout le monde pourra y accéder, épileptiques qui vont pouvoir avoir un acte chirurgical pour une guérison. Mais pour pouvoir avoir un acte chirurgical, il faut que la zone épileptogène soit bien définie et soit opérable. C'est-à-dire qu'elle ne touche pas les fonctions premières, ni la parole, ni la vue, ni les fonctions motrices. Donc ça, c'est... Voilà. Donc il y a tout un parcours. Ça, je le laisse, je dirais, aux professionnels de la santé pour l'expliquer, parce que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je suis juste une bénévole dans une association. Donc ça, je n'irai pas sur ce sujet-là. Mais ça peut être une solution pour certaines personnes. Les parcours sont longs, sont très longs, mais si, ça peut être une solution. Voilà.
Alors, est-ce que l'épilepsie, c'est une affection longue durée, une ALD ?
Alors, l'épilepsie peut être considérée comme une ALD, par la sécurité sociale, hein. Mais pour ça, il faut avoir une certaine définition. Il faut qu'elle ait des impacts dans votre vie au quotidien. Enfin, c'est défini de façon très, très particulière. Donc, certaines épilepsies sont considérées comme telles, d'autres ne le sont pas.
Donc, ça permet. Ça implique quoi que ce soit reconnu comme une ALD ?
Alors, si on est reconnu comme ALD, si on a une reconnaissance de la maladie comme ALD, ça permet que les prises en charge des soins soient à 100% liées à l'épilepsie. Hein. Si la personne va pour un simple rhume chez son médecin, ça ne passera pas dans l'ALD, elle devra avancer les frais. Donc, ça permet une prise en charge financière plus légère pour la personne atteinte.
Voilà, et donc on peut supposer aussi que malheureusement, certains traitements qui sont pris au long cours ont eux-mêmes des effets secondaires.
Et effectivement, on peut tout à fait supposer. Alors, on a des traitements, il y a des traitements sur lesquels il faudra avoir un suivi avec des prises de sang, etc., parce que ça peut avoir des incidences au niveau du foie, etc. Donc, il est important d'avoir un suivi médical très précis. D'autres le seront un peu moins. D'autres traitements sera simplement, alors je suis désolée de dire simplement, mais voilà, des prises de poids. Mais une prise de poids qui sera temporaire et qui sera, enfin temporaire, qui durera tout le temps la prise du médicament. C'est-à-dire, si on change la molécule, le poids redeviendra normal. Voilà. Et puis, il y a souvent un fond. Alors, l'épilepsie donne un fond de fatigue et les médicaments rajoutent de la fatigue. Donc, ça voilà, c'est des choses qu'on peut avoir. Donc, si on a fatigue, ça veut dire problème de concentration aussi. Problèmes d'apprentissage. Je reviens toujours sur nos étudiants là, qui peuvent nous entendre. Et il est important, quand on est étudiant, de pouvoir se rapprocher des médecins universitaires. Il y a les services voilà, qui permettent de pouvoir mettre en place les choses. On n'est pas forcément effectivement sûr de l'handicap. Ça, je suis prête à l'entendre. Mais on est sur une maladie qui invalide quand même et qui empêche de pouvoir être au meilleur de sa forme. Donc, il faut avoir parfois... faut avoir parfois le courage, parce que c'est du courage, de venir vers ces services pour pouvoir avancer et écrire les choses. En général, les services dans les universités sont vraiment bien faits, ont vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute et comprennent assez vite ce qu'il faut mettre en place. Ça peut être du carton, ça peut être des moments de repos, ça peut être aussi des étudiants qui vont prendre les cours à la place, avec des étudiants référents qui viendra vous aider à réapprendre les cours. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment à négocier au cas par, enfin pas à négocier, hein, à demander au cas par cas par rapport à sa propre connaissance de son épilepsie. Il faut que l'épileptique soit capable d'expliquer ce dont lui il a besoin, mais il faut que l'épileptique aussi accepte qu'on lui propose des choses dont il pourrait avoir besoin. Et il faut aussi qu'il accepte que son entourage puisse dire ce que cet entourage pense qu'il a besoin. C'est en se matchant ces trois éléments-là qu'on pourra le mieux l'accompagner.
Alors l'idée, c'est de dire aussi, comment dire, peut-être de ne pas avoir peur d'être considéré comme malade ou comme handicapé, parce qu'il y a peut-être ça aussi qui peut terroriser certaines personnes atteintes par l'épilepsie.
Je suis tout à fait d'accord. Ça terrorise, ça bloque et ça parrainise. Si j'ai un message à passer, c'est que lorsqu'on commence à libérer la parole, c'est là que ça commence à aller mieux. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Si la personne a du mal à le faire elle-même, qu'elle vienne nous rencontrer et on l'accompagnera. On sait faire. On a des personnes qui sont très très bien et qui sont très pointues et qui ont que de l'empathie. Donc, ne pas hésiter. Et puis, la médecine universitaire, je trouve qu'elle a plutôt bonne oreille et un beau regard. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus d'aller vers eux. C'est vers eux qu'il faut d'abord aller. Moi, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que, alors actuellement, c'est pas tout à fait le cas, mais quand vous voyez dans un amphi quelqu'un qui fait une crise, alors que ce soit une tonico-clonique ou autre chose, restez calme autour d'elle. Enfin, on parlait tout à l'heure de ce que ça pouvait engendrer. Plus on va être énervé autour d'elle, plus il y aura d'énervement. Plus quand elle va revenir à elle, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que son retour à ses capacités normales va être beaucoup plus longue. Donc plus les gens seront calmes autour d'elle, avec de l'empathie. Alors, pas de la compassion, hein, je parle bien d'empathie. Ça va lui permettre d'être au mieux. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important.
Donc pour ce qui est de la conduite à tenir, on peut dire par exemple que ça ne sert à rien de se masser autour de la personne qui est en train de faire une crise, au contraire, plutôt dégager l'espace.
Plutôt dégager l'espace, plutôt être avec elle. Bon, si on est sur une crise tonico-clonique, vous essayez de la mettre le plus au sol parce que c'est là qu'elle sera moins de mal, hein, parce que dans un amphi, on a quand même les marches, etc. Donc, essayez de la mettre le plus, voilà. Si on est sur un autre type de crise, restez près d'elle. Essayez, et ça je sais bien que c'est très compliqué de le faire, de chronométrer la crise, parce que si elle est longue et que les secours viennent, ils vont avoir besoin de cet élément-là. Et je dirais, c'est à peu près la seule chose à faire. Éloigner les choses qui pourraient la blesser. Ça aussi, ça peut être important. Hein. Ne pas forcément essayer de la toucher, parce que certains épileptiques, selon le type de crise, si c'est des crises visuelles, le fait de se voir approcher, elle peut prendre ça comme quelque chose, comme une agression, et donc elle peut répondre en vous agressant. Donc ce n'est pas une agression vers vous, c'est juste qu'elle, elle sera en situation de défense par rapport à ce qu'elle vit. D'accord ? Et puis, vraiment du calme. Et puis, quand elle revient à elle, l'accompagner sur le retour à elle. En lui disant, c'est parce qu'elle va avoir des questions, je suis où, c'est quoi, c'est passé quoi, elle ne va pas forcément comprendre. Donc, calmement, lui dire les choses. Mais calmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu te souviens, on est en quel cours? Est-ce que tu te souviens? Voilà, et petit à petit, les choses... Mais toujours en faisant en sorte que... c'est compliqué, hein, ce que je suis en train de dire. Il faut aussi comprendre que la personne, à ce moment-là, elle ne se souvient plus forcément de l'heure qui vient de se passer. Donc, elle peut se croire, par exemple, encore au studio ou au café du coin. Enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais, et puis là, se retrouver dans l'amphi, il lui a loupé un truc parce qu'en fait, la crise a été tellement forte qu'elle a effacé aussi les souvenirs. Donc, lui dire, ben voilà, mais on est où? On est quel jour? D'accord, ok. Et puis, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle nous dise, non, non, mais là, ça va, t'inquiète, voilà, quoi. Mais toujours dans l'empathie, avec de la douceur, et puis en observant bien la personne. Parce que c'est en observant la personne que l'on aura les meilleurs éléments pour pouvoir prendre la situation en main.
Voilà, on peut aussi dire, bon, si jamais on voit que la personne a la mâchoire crispée ou les doigts raides ou quoi, c'est pas utile d'essayer de remettre le bras droit ou...
Alors, c'est pas utile, mais en plus, c'est surtout pas à faire. Et ça, il faut surtout jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est crispée pendant une crise, c'est quoi? C'est qu'elle a tétanisé ses muscles. Elle est complètement tétanisée, donc elle est comme une statue de marbre. Donc, si vous allez essayer de faire bouger une statue de marbre, vous allez faire quoi? Vous allez casser la statue de marbre. Donc là, vous risquez de la blesser. Et en plus de ça, vous parliez de crispation de mâchoire. Il y a un geste qui a été dit et redit, mais qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire. Une personne qui fait une crise, ne jamais vouloir mettre quoi que ce soit dans sa bouche. Elle n'avalera pas sa langue. Au niveau anatomie, ce n'est pas possible. Donc, stop, on ne fait plus ce geste-là. Et en plus que de ça, elle va crisper. Donc, elle va crisper sa mâchoire. Sa mâchoire, ses muscles vont se crisper très, très fort. Et quand on est en crise, on décuple les forces. Donc, cette mâchoire va se crisper soit sur l'objet, soit sur les doigts. Donc, elle va casser l'objet ou vous couper les doigts. Hein, parce qu'on a vu des gens se retrouver avec des doigts aux urgences à réparer parce qu'ils avaient mis les doigts où il ne fallait pas. Et en plus, elle va se faire mal. Donc soit vous allez lui casser les dents, elle va se casser les dents, soit elle va avoir un problème au niveau de la mâchoire. Donc surtout pas ça, surtout plus de doigts ou de gestes par rapport à la bouche de la personne. Une personne qui fait une crise, on la laisse développer sa crise. De toute façon, à partir du moment où la crise elle démarre, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Ce qui est compliqué pour les gens, souvent, c'est que moi, ce que j'entends, c'est « Oh là là, elle m'a encore fait une crise ». Non, elle ne vous a pas fait une crise. Elle ne fait pas de crise. Elle subit la crise et vous, vous y assistez. C'est important de se mettre ce vocabulaire-là dans la tête. Parce que c'est comme ça qu'on va faire changer aussi la vision de l'épilepsie. Une personne épileptique ne fait pas une crise à quelqu'un parce qu'elle en a ras-le-bol ou parce qu'elle est en kikinante ou parce qu'elle n'avait pas envie d'aller à un endroit. Elle subit une crise parce qu'elle avait une fatigue. Peut-être qu'elle a oublié son médicament. C'est quand même la première cause chez les épileptiques qui sont sous traitement de crise. Hein, voilà. Donc, elle a peut-être oublié son médicament hier soir parce qu'elle a déjà fait une crise et puis elle s'est endormie sans le prendre. Et puis que, voilà. Donc, ça peut être ça. Donc, elle fait une crise parce qu'il y a une raison. Il y a son cerveau qui se met à s'exciter dans tous les sens et boum, le résultat, c'est la crise. Donc, elle ne fait pas de crise à quelqu'un. Et pour les professeurs, la personne ne fait pas exprès de faire la crise tous les jours à 15 heures pendant le cours de je ne sais quoi. C'est parce que c'est à ce moment-là, elle a une régularité de crise et que c'est comme ça. Donc, c'est important de le savoir, quoi.
Voilà. Et alors, pour continuer à s'informer sur l'épilepsie, Magali Villette, il y a le 8 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Alors, il y a plein d'événements qui sont prévus. Est-ce que vous aimeriez nous en dire ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui sont prévus, oui. Alors, la journée internationale de l'épilepsie, le mouvement international est relié dans tous les pays aujourd'hui par l'illumination de toutes les mairies ou monuments, etc., possibles en France et à l'international. Nous, à Tours, on a eu la chance que la mairie, l'hôtel de ville, va l'être le 8 février. Donc, si vous voyez le 8 février, l'hôtel de ville en violet, c'est parce qu'ils soutiennent le mouvement pour les épileptiques et ils mettent en lumière cette maladie. Donc, c'est très important pour nous et on leur remercie. Nous avions prévu également de faire un stand d'info au départ aux Atlantes, mais ils sont fermés. On s'était replié sur la petite arche, mais eux aussi. Donc, on ne va pas pouvoir le faire là, maintenant. Mais les stands d'info vont venir. Ça, je m'y tiendrai parce que pour moi, un des premiers rôles de la coordination départementale, c'est d'informer la population parce que ça peut toucher tout le monde. Et il est important de connaître une maladie pour pouvoir savoir la détecter. Donc, je ferai en sorte que ça aura lieu. Et puis, Épilepsie France, au niveau national, on met à disposition des webinaires. Et j'invite tout le monde à se connecter sur ces webinaires qui vont vraiment être très, très intéressants sur plusieurs items. Donc, à partir de ce soir, les liens vont pouvoir être mis en ligne. Donc, il faut aller sur le site d'Épilepsie France et vous trouverez le lien pour vous inscrire. Il y a quatre thèmes. Donc, il y aura un webinaire samedi matin sur la scolarité avec l'épilepsie. Donc ça peut être intéressant pour tous, hein, parce que je sais que dans les étudiants, il y a des futurs professeurs, donc ça peut aussi vous apporter des choses. Et puis, il y en a trois autres le lundi 8, un sur l'association elle-même, ce qu'elle porte, et sachant qu'on est quand même une association d'utilité publique. Et puis deux autres sur les généralités, la maladie, le diagnostic, le parcours. Et puis un dernier sur la recherche et les avancées futures et les espoirs pour pouvoir guérir de cette maladie. Donc tous ces webinaires, ils ont des dates et des horaires. Mais si vous vous inscrivez, vous pouvez les voir en replay jusqu'au 27 mars, il me semble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et pouvoir les regarder par ailleurs à un autre moment. Parce que franchement, ça va être vraiment des moments où vous allez apprendre plein d'autres choses que ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui.
Donc tout ça, c'est à retrouver sur le site de votre association et je crois qu'il y a également un concours.
Alors actuellement, il y a un concours sur un concours visuel auquel vous pouvez tout à fait avoir participé. On sera d'ailleurs ravis que la section art mène quelque chose. Ça serait vraiment top et puis on vous mettra en lumière. On a un concours actuellement sur mettre en lumière l'épilepsie pour vous. Donc on vous propose de faire des visuels, que ce soit des photomontages ou une peinture ou au crayon ou... On a une personne qui a fait un truc avec du tricot et du crochet. Donc, ça peut être n'importe quel support pourvu que ce soit un visuel. Et il sera publié. Et puis, on demande aux gens qui viennent les liker. Les trois plus likés seront paraîtront, excusez-moi, dans notre journal qu'on édite assez fréquemment. Voilà.
Merci à vous, Magali Villette, pour toutes ces informations sur l'épilepsie. Et pour se quitter, vous nous avez choisi une pause musicale. Alors, de quoi il s'agit?
Alors, il s'agit certainement de musique, une chanson que vous avez tous entendue en tant que jeune. C'est Zoé West qui a mis en parole et en musique son propre ressenti sur sa propre épilepsie. Et le titre s'intitule « Control ».
Alors nous nous quittons en écoutant Zoé Wes. Merci encore à vous.
Early in the morning I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. Cause even though I'm old and knowing I know how to shake off the past, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand.
Pour la 28e édition du festival Désir Désir, du 20 au 26 janvier, Radioactive, Radio Béton et Radio Campus lancent un appel à création sonore sur le thème « À fleur de peau ». Témoignage réel ou fictif d'une durée maximale de 3 minutes. Tends le micro à ton dermato,
à ton amant,
à ta maman,
à ton prof de judo ou à ton alter ego. Proposition décente à envoyer avant le 1er janvier 2021.
Rendez-vous sur le site internet de votre radio pour plus d'informations. De nombreux lots sont à gagner.
Alors, salut Mélissa. Je sais jamais comment parler de moi-même, ni parler de mes cheveux quand même, parce que c'est une partie de moi, mais puisque tu me le demandes, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps, déjà. Et merci d'avoir pensé à moi. Ça, c'est, voilà, ça me fait plaisir. Bon, alors, j'ai des cheveux bouclés. Parce que, voilà, génétiquement, j'ai des cheveux bouclés et je suis née avec des cheveux bouclés. Et en tant que personne marocaine, africaine, c'est un peu normal d'avoir des cheveux bouclés parce que, disons que c'est une norme génétique un peu dans la région. Et il faut croire que, mais depuis que j'étais petite, on m'a toujours fait croire que mes cheveux n'étaient pas normaux. Enfin, je parle pas de mes parents ou de ma famille, mais disons que, un peu par la société, à l'école ou les autres enfants. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux bouclés, ça c'est assez étrange. Mais je pense que il y a une norme économique capitaliste et une norme de suprématie blanche qui fait en sorte que les cheveux raides sont devenus la norme de ce que devraient être des cheveux et de ce que c'est que des beaux cheveux, alors que des cheveux bouclés c'est étrange, c'est bizarre et ça sort de cet imaginaire de beaux cheveux. Et du coup quand j'étais petite c'était pas acceptable de laisser mes cheveux au naturel. En même temps, ce qui est étrange, c'est que moi-même, je me rendais pas compte que mes cheveux étaient bouclés, tellement on m'avait alignée avec l'idée que les cheveux sont raides, et je croyais que mes cheveux étaient raides, c'est juste qu'ils étaient un peu mal fichus, quoi. Et que je devais à chaque fois faire tout mon possible pour les rendre raides. Du coup, je me souviens un peu de longs après-midi avec mes cheveux et plein d'huile et tout, plein de produits, à essayer de les rendre hyper raides, les brosser et tout. Puis à un moment donné, j'en avais vraiment marre et c'est là où je m'étais coupé les cheveux très très courts. Ce qu'on appelle une coupe garçon, alors que ça veut absolument rien dire. Il n'y a pas de coupe garçon ou coupe homme, coupe fille ou coupe garçon, ça veut rien dire. Pour revenir à l'imaginaire des normes sociales, à l'imaginaire ce que doit être des cheveux ou pas. Du coup, à un moment donné, l'adolescence, non, je pense que c'était même c'est quand j'avais 17 ans, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire pousser mes cheveux. Je passais presque toute ma vie avec des cheveux très courts. Et c'est à ce moment-là où je me rends compte que mes cheveux sont bouclés. C'est assez étrange, mais il m'a fallu 17 ans pour comprendre que mes cheveux étaient bouclés. Et même à cette époque-là, je comprenais pas trop, j'arrivais pas trop à l'accepter. Toutes mes copines disaient que je devrais faire des brushing, aller chez le coiffeur, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a plusieurs techniques pour utiliser des produits et rendre les cheveux raides pour une longue période. Ça pourrait même durer plusieurs mois. Et c'est des produits chimiques qui sont très très forts et je me souviens que je les avais déjà essayés sur mes cheveux, je pense une fois, ça a complètement bousillé ma chevelure et j'ai dû me recouper les cheveux et après les laisser au naturel. Et je pense que j'ai vraiment laissé mes cheveux au naturel à partir de 21 ans. Ouais, 21 ans et c'est à 21 ans que je me suis rendu compte que j'avais de très beaux cheveux. Que j'adore et c'est des cheveux bouclés énormes et tout, mais c'est je trouve que c'est hyper important de dire aux enfants que leurs cheveux sont très beaux et qu'ils sont tout à fait normaux et qu'ils n'ont rien d'étrange et qu'ils n'ont pas à ressembler à autre chose. Et dans mon enfance, dans mon adolescence, on m'a aliénée par rapport à mes cheveux et je croyais que mes cheveux étaient moches, que j'étais moche. Et du coup, je me détestais, j'ai détesté mon corps. Enfin, pas que mes cheveux, enfin, plein de choses. En même temps, les filles, les personnes assignées femmes subissent ça dans leur vie, dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur âge adulte, enfin, toute la vie, hein, jusqu'au bout. Et du coup, c'est assez intriguant parce qu'au Maroc, il y a beaucoup de femmes ou de personnes assignées femmes qui ont cette aliénation de vouloir à tout prix avoir des cheveux raides, à l'européenne, quoi. Ou avoir des cheveux blonds, ou avoir des cheveux tels et tels, parce qu'en même temps, il y a des pubs. Je me souviens qu'à un moment donné, quand j'étais ado, il y avait une pub qui était assez marrante, mais pour dire un peu l'idée derrière, c'est que ils montraient une femme avec une belle chevelure bouclée vraiment magnifique. Et elle se regarde dans un miroir et elle n'est pas contente parce que c'est moche. Voilà, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Et après, elle utilise un produit, elle fait un brushing et ses cheveux deviennent raides. Et c'est bon, elle est hyper contente et tout. Et tout le monde est content, tout le monde lui dit qu'elle est très belle. Et il y a plein de pubs dans ce sens. Des pubs de shampoing, des pubs, d'après shampoing, je ne sais pas quoi. Après, maintenant, j'ai l'impression que, maintenant, le capitalisme s'est un peu réapproprié des luttes d'afroféministes sur la question des cheveux bouclés. Et du coup, il y a plus une glorification quelque part de se dire oui, c'est de beaux cheveux et tout. Mais cela n'empêche que l'imaginaire des cheveux bouclés reste quand même problématique, en tout cas en Maroc. Je le vis chaque jour. Je crois qu'il y a des gens qui me regardent bizarrement et il y a même des personnes qui me demandaient, que ce soit là où j'étais à l'université ou dans des boulots que j'ai pu faire, à chaque fois on me demandait mais pourquoi tu... Bah, en dirigeant, on va dire « lèche-moi qu'à sauver shark », c'est-à-dire pourquoi tu... Pour faire... traduction intégrale. Pourquoi tu ne répares pas ou prépares pas ou tu ne... Voilà, c'est un peu de son sens. Tu ne répares pas tes cheveux. C'est-à-dire pourquoi tu les laisses dans cet état. Et moi, je posais à chaque fois la question « mais qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ? Ils sont vraiment naturels ?» Je crois qu'on me disait non, mais c'est pas beau. On dit Sharb Sheikh, c'est-à-dire que c'est un cheveu qui. C'est des cheveux qui sont un peu. Qui n'ont pas. Qui veulent rien dire, quoi. Un peu comme une touffe, quoi. Et voilà, ça. C'est, maintenant, moi, ça me fait rire, parce que, je pense. Mais je suis sûre avoir complètement dépassé ces trucs-là, mais je suis sûre qu'il y a plein d'enfants, plein d'adolescents à qui, à chaque fois, on leur dit mais non, tes cheveux ne devraient pas être comme ça, alors qu'on n'a pas choisi ces cheveux. Les cheveux bouclés sont très beaux, ils sont magnifiques, et je trouve vraiment que c'est les plus beaux cheveux, et je suis vraiment hyper contente d'avoir ces cheveux-là. Voilà. C'était un peu... mon expérience avec mes cheveux et comment je la vis au Maroc, en tant que Marocaine. Merci.